Ici le centre de conférence de Temple Square, Salt Lake City. Vous assistez à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite. Thomas Monson, premier conseiller de la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Nous vous souhaitons la bienvenue à la première session de la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Hinckley, qui préside ces conférences, m'a demandé à moi, Frère Monson, de diriger cette session. Nous saluons les autorités générales assises sur l'estrade au centre de conférence, au lieu d'appoint de l'Assembly Hall, ainsi que les présidents généraux de la Société de secours, des jeunes gens, des jeunes filles, de l'école du dimanche et de la primaire, qui assistent à cette conférence. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux personnalités du gouvernement, du monde de l'enseignement et aux édiles qui sont présents parmi nous. Nous remercions les propriétaires, les exploitants des nombreuses chaînes de télévision et stations de radio et des réseaux de diffusion par satellite et par câble qui offrent leur concours à titre de service public afin de transmettre cette conférence à un vaste auditoire dans de nombreuses régions du monde. Nous sommes également contents de mettre ces sessions à disposition sur l'Internet. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Craig Jessop et de Mac Wilberg, avec Lee Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Gloire au Dieu Tout-Puissant » et interprétera maintenant « À douce l'heure de prier ». Robert F. Horton, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
This is my Father's prayer. Our Father who art in heaven,
Père céleste,
hallowed be thy name.
Que ton nom soit sanctifié.
We recognize thee as the
nous te reconnaissons comme le dispensateur de tout ce qui est juste et bon.
And we recognize and give nous thanks for our Savior,
te remercions de nous avoir donné notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, dont c'est ici l'Église. Nous te remercions, Père, du prophète, le président Hinckley, et exprimons notre gratitude pour sa présence ici aujourd'hui.
Nous
te prions pour les personnes qui vont participer à cette session en donnant des discours ou en interprétant de la musique, et nous te prions de bénir ceux qui vont les écouter et observer cette conférence, afin que nous puissions communiquer par l'intermédiaire de ton esprit. Veuille bénir les personnes qui servent leur pays dans les forces armées. Sois avec eux, protège-les, guide-les, aide-les à trouver des lieux de sécurité, des lieux de refuge. Père, nous te vivons dans ce monde et nous sommes sujets aux tentations de ce monde. Veuille nous guider, nous éloigner de la tentation, nous aider à être forts et à faire tout ce qui est conforme à ta volonté. Nous te remercions du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ et de son Église à notre époque. Nous te prions de nous aider à faire que par notre vie juste, nous permettions à Jésus-Christ de diriger cette Église. Nous te prions de bénir les nécessiteux et te remercions des bénédictions que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le président Hinckley m'a demandé de présenter maintenant les autorités générales, les 70 interrégions, les présidents généraux, les auxiliaires de l'Église, pour que vous leur manifestiez votre soutien. Frère Kurt, directeur général du département d'épurement de l'Église, lira ensuite le rapport du département de l'Église. Il sera suivi par F. Michael Watson, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport d'épurement de l'Église pour l'année 2006. Frère G. Scott, Richard Scott, du Collège des 12 apôtres, lui adressera ensuite la parole. Après son discours, le chœur chantera « Le monde a besoin d'ouvriers ». Mes frères et sœurs, maintenant que je vais vous présenter les autorités de l'Église, puissions-nous participer non seulement en levant la main, mais également en engageant notre cœur. Il nous est proposé de soutenir Gordon Bidner Hinckley comme prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Thomas Monson comme premier conseiller dans la première présidence, et James Esdras Faust comme deuxième conseiller de la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester en levant la main. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Thomas Monson comme président du Collège des 12 apôtres, Boyd Kenneth Packer comme président suppléant du Collège des 12 apôtres, et les membres suivants du dit collège: Boyd Packer, Tom Perry, Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Joseph Worthlin, Richard Scott, Robert Ailes, Jeffrey Holland, Henry Eyring, Dieter Uhrdorf et David Bednar. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous proposait de soutenir le Conseil de la Première Présidence, les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever, à dater du 1er mai 2007, les 70 d'interrégions suivants.
D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grohl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopischka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Teh, Robert B. White, John W. Yardley, all who wish to join us in expressing...
Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leurs remerciements le manifestent. Il nous est proposé de soutenir comme nouveaux membres du premier collège des 70
Enrique R. Palabella, Eric W. Kopischka, Michael J. Teh, Octaviano Tenorio, and Claudio D. Civic. All in favor, please manifest.
Ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de soutenir comme 70 interrégions
Richard K. Ahadji, Ruben V. Aleo, Climato C. A. Alameida, Sergio M. Anaya, Wilfred W. Anderson, Fernando J. D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert A. E. Chambers, Yun Juan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flugiger, Jovencio A. Juanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. All in favor,
que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Il nous est proposé de relever, en leur manifestant nos sincères remerciements, Bonnie Ray Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes et Anne Clark Pingree, la présidente générale de la Société de Secours. Nous relevons aussi tous les membres du Bureau général de la Société de Secours. Il nous est aussi proposé de relever Julie Bangertebeck et Elaine Schwartz Dalton comme conseillères de la présidente générale des jeunes filles. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour leur exprimer leurs remerciements pour leur excellent service, leur dévouement, le manifestent. Il nous est proposé de soutenir Julie Bankerbeck comme nouvelle présidente générale de la Société de Secours, avec Sylvia Henriques-Allred comme première conseillère et Barbara Thompson comme deuxième conseillère. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent aussi l'indiquer. Il nous est aussi proposé de soutenir Elaine Schwartz-Dalton comme première conseillère de la présidente générale des jeunes filles et Mary Nielsen Cook comme deuxième conseillère de la présidente générale des jeunes filles. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Ceux qui sont opposés peuvent l'indiquer. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et présidents généraux auxiliaires actuels. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Que ceux qui sont d'avis contraire le manifestent. Il semble que le soutien a été unanime. Président Hinckley. Merci, mes frères et sœurs, de votre foi et de vos prières. Nous allons demander maintenant aux autorités générales, à la présidente générale de cette secours et aux conseillères de la présidente générale des jeunes filles qui viennent d'être appelées de prendre place sur l'estrade.
To the first presidency
la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le Conseil d'affectation de la dîme qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Ce Conseil est composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'Épiscopat président. Il approuve les budgets des départements et établissements de l'Église. Après avoir reçu l'autorisation du Conseil, les départements de l'Église gèrent les budgets approuvés et dépensent les fonds conformément aux règles et modalités de l'Église. Il a été donné au département d'appurement de l'Église l'accès à tous les registres et systèmes nécessaires pour évaluer l'adéquation des contrôles, des recettes et des dépenses et la protection des biens de l'Église. Le département d'appurement de l'Église est indépendant de tous les autres départements. Et établissement de l'Église et le personnel se composent d'experts comptables, de contrôleurs de gestion, de vérificateurs de systèmes informatiques et d'autres professionnels certifiés. Sur la base de nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que, dans tous les domaines matériels, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église utilisées au cours de l'exercice 2006 ont été enregistrées et administrées conformément aux pratiques comptables correctes, aux budgets approuvés et aux règles et modalités de l'Église. Respectueusement, Département d'appurement de l'Église, Robert W. Cantwell, directeur général.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, la première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la croissance et la situation de l'Église au 31 décembre 2006. Unité de l'Église, nombre de pieux, 2745. Mission, 344. District, 630. Paroisses et branches, 27 475. Population de l'Église. Population totale, 12 868 606. Accroissement du nombre d'enfants inscrits en 2006, 94 006. Convertis, baptisés en 2006, 272 845. Nombre de missionnaires à plein temps, 53 164. Deux temples ont été consacrés en 2006, Sacramento en Californie, États-Unis et Helsinki en Finlande. Deux temples ont été reconsacrés en 2006, Santiago de Chili et Papeete à Tahiti. Le nombre de total de temples actuellement en service est de 124. Membres éminents décédés depuis avril dernier. Elder Devere Harris, ancien membre des 70. Elder Spencer H. Osborne, ancien membre des 70. Sœur Elisa Young Rogers-Worthlin, femme de Joseph B. Worthlin, membre du Collège des Douze Apôtres. Sœur Norma Wilson Ashton, veuve de Marvin J. Ashton, ancien membre du Collège des Douze Apôtres. Sœur Dorothy Porter Holt, ancienne conseillère dans la présidence générale des jeunes filles.
Cette conférence a débuté par une interprétation touchante du célèbre cantique « Adoucez l'heure de prier » par le magnifique chœur du tabernacle mormon. Les paroles bien connues nous rappellent que la prière est la source de réconfort, de soulagement et de protection que notre Père Céleste, aimant et compatissant, nous a donné bien volontiers. La prière est un don divin de notre Père Céleste à chaque âme. Réfléchissez à ceci. L'être suprême absolu, omniscient, qui voit tout, tout puissant, nous encourage, vous et moi, malgré notre insignifiance, à parler avec lui, notre Père. En fait, puisqu'il sait à quel point nous avons désespérément besoin de sa direction, il nous commande de prier à haute voix aussi bien que dans notre cœur, oui, devant le monde, aussi bien qu'en secret, en public, aussi bien qu'en privé. Quelle que soit notre situation, que nous soyons humbles ou arrogants, pauvres ou riches, esclaves ou libres, instruits ou ignorants, aimés ou abandonnés, nous pouvons lui parler. Nous n'avons pas besoin de rendez-vous. Notre supplication peut être courte ou prendre tout le temps qu'il faut. A peut-être une longue expression d'amour et de gratitude ou un appel urgent au secours. Il a créé d'innombrables cosmos et les a remplis de monde. Cependant, vous et moi pouvons lui parler personnellement et il répondra toujours. Nous prions notre Père Céleste au nom sacré de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. La prière est le plus efficace quand on s'efforce d'être pur et obéissant, que l'on a de bonnes intentions et qu'on est disposé à faire ce qu'il demande. L'humble prière pleine de confiance guide et apporte la paix. Ne vous faites pas de soucis si vous exprimez vos sentiments avec maladresse. Parlez simplement avec votre Père qui est compatissant et compréhensif. Vous êtes son enfant précieux qui l'aime d'une manière parfaite et veut aider. Quand vous priez, ayez conscience que notre Père Céleste est proche et qu'il écoute. La clé pour mieux prier est d'apprendre à poser les bonnes questions. Pensez, au lieu de demander tout ce que vous voulez, à chercher sincèrement ce qu'il veut pour vous. Une fois que vous connaissez sa volonté, priez pour avoir la force de l'accomplir. Si vous vous sentez loin de notre Père, cela peut venir de plusieurs facteurs. Quelle que soit la raison, c'est si vous continuez à le supplier de vous aider, qu'il vous guidera pour que vous fassiez ce qui vous redonnera l'assurance qu'il est proche. Priez même quand vous n'en avez pas le désir. Parfois, comme un enfant, vous vous conduisez mal et avez le sentiment que vous ne pouvez pas exposer un problème à notre Père. C'est à ce moment-là que vous avez le plus besoin de prier. Ne vous croyez jamais trop indigne pour prier. Je me demande si nous pouvons réellement mesurer le pouvoir immense de la prière avant d'avoir rencontré un problème urgent, paraissant insurmontable, et de nous être rendu compte que nous sommes incapables de le résoudre. Alors, nous nous tournerons vers notre Père, reconnaissant avec humilité que nous dépendons entièrement de Lui. Il est utile de trouver un endroit retiré où nous pouvons exprimer nos sentiments à haute voix, aussi longtemps et avec autant d'intensité que nécessaire. Je l'ai fait. Il m'est arrivé une fois de vivre une expérience qui m'a rendu extrêmement anxieux. Cela n'avait rien à voir avec de la désobéissance ni avec une transgression, mais avec une relation humaine d'importance vitale. Pendant un moment, j'ai épanché mon cœur en une prière fervente. Cependant, malgré toutes mes tentatives, je ne trouvais pas de solution, pas d'apaisement au bouleversement qui était mien. J'ai demandé de l'aide à notre Père éternel que j'ai appris à connaître et en qui j'ai une entière confiance. Je ne voyais aucune issue capable de m'apporter le calme dont je jouis généralement. Le sommeil m'a gagné. Quand je me suis réveillé, j'étais totalement en paix. Je me suis encore agenouillé, j'ai prié solennellement et j'ai demandé « Comment cela se fait-il ?» Dans mon cœur, j'ai senti que la réponse était son amour et son souci de moi. Tel est le pouvoir d'une prière sincère adressée à notre Père compatissant. J'ai appris beaucoup sur la prière en écoutant les supplications du président Hinckley durant nos réunions. Vous pouvez aussi apprendre de lui en étudiant soigneusement la prière exceptionnelle qu'il a prononcée en public à la fin de la conférence d'octobre 2001 pour les enfants de notre Père du monde entier. Sa prière venait du cœur et n'avait pas été écrite à l'avance. Étudiez cette prière et vous vous apercevrez qu'il n'utilise pas de vaines répétitions ni ne se donne des airs pour impressionner les autres, comme cela arrive parfois. Il associe des mots simples avec éloquence. Il prie comme un fils humble et confiant qui connaît bien son Père céleste bien-aimé. Il a la certitude que sa réponse viendra au moment où il en aura le plus besoin. Chaque prière est en rapport avec son objet et s'accompagne d'une déclaration claire de résolution à prendre, ainsi que d'une abondante expression de gratitude pour des bénédictions précises qu'il reconnaît. Ces prières spontanées sont comme des pierres précieuses polies, témoignage silencieux de la place fondamentale qu'occupe la prière dans sa vie depuis de très nombreuses années. Souvent, lorsque nous prions pour avoir de l'aide lors d'une épreuve importante, notre Père Céleste nous donne de douces incitations, nous demandant de réfléchir, de faire preuve de foi, de lutter parfois, et d'agir. C'est un processus graduel qui nous permet de discerner les réponses inspirées. Il est rare de recevoir une réponse complète d'un seul coup. Elle viendra petit à petit, par bribes, afin que vos capacités augmentent. Si vous suivez chaque bribe avec foi, vous serez dirigé vers d'autres bribes jusqu'à l'obtention de la réponse complète. Ce mode exige d'avoir foi en la capacité de réponse de notre Père. Bien que cela soit parfois très dur, cela nous fait beaucoup progresser. Il écoutera toujours vos prières et y répondra toujours. Cependant, ces réponses viendront rarement quand vous serez à genoux en prière, même si vous le suppliez de vous répondre immédiatement. Au lieu de cela, il vous inspirera dans les instants de calme où l'esprit peut toucher votre esprit et votre cœur le plus efficacement. Son modèle vous fait progresser. Votre personnalité s'affermira, votre foi grandira. Il y a une relation entre ces deux facteurs. Plus vous avez foi, plus votre personnalité s'affermira, et une personnalité plus forte augmente votre capacité de faire preuve d'une foi encore plus grande. Il est très difficile de prier sincèrement pour quelque chose que l'on désire beaucoup et de ne pas recevoir la réponse souhaitée. Il est difficile de comprendre pourquoi l'exercice de votre foi profonde et sincère, accompagné d'une vie d'obéissance, ne vous apporte pas le résultat escompté. Le Sauveur enseignait, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui vous est utile, vous sera donné. » C'est quelque chose de très important pour vous. Parfois, il est difficile de savoir ce qu'il y a de mieux ou d'utile pour nous à plus longue échéance. Votre vie sera plus facile quand vous accepterez que ce que Dieu fait dans votre vie est pour votre bien éternel. Il vous est demandé de chercher la réponse à vos prières. Obéissez au conseil du maître de l'étudier dans votre esprit. Souvent, vous trouverez une solution, tandis que vous cherchez à savoir si votre réponse est la bonne. Vous serez aidé. Cela peut être par l'intermédiaire de vos prières ou par une impression que vous donnera le Saint-Esprit, et parfois, par l'intermédiaire d'autres personnes. Ce conseil donné à Oliver Cowdery au sujet de la prière peut également vous aider. Voici, tu as pensé que je te le donnerais, alors que ton seul souci était de me le demander. Tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors, tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. La réponse se manifeste sous la forme d'un sentiment accompagné d'une certitude. Le Sauveur distingue deux moyens. Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit. Les réponses dans l'esprit et dans le cœur sont des messages du Saint-Esprit à notre esprit. Dans mon cas, la réponse dans l'esprit est très précise, comme si on me dictait des mots, tandis que la réponse dans le cœur se manifeste par le sentiment de devoir prier davantage. Ensuite, le Seigneur explique, « Mais si ce que tu proposes n'est pas juste, tu auras un engourdissement des pensées. Dans mon cas, c'est un sentiment troublant et gênant. » Il a été enseigné à Oliver Cowdery une autre façon dont viennent les confirmations. N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet? La paix est la confirmation que je ressens personnellement le plus souvent. Quand je me suis trouvé vraiment préoccupé par un problème grave que je tentais de résoudre en vain, j'ai continué de faire des efforts avec foi. Alors, un sentiment de paix m'a envahi, apaisant mes craintes, comme le Seigneur l'a promis. Certaines mauvaises interprétations au sujet de la prière peuvent être évitées si nous prenons conscience que les Écritures définissent les principes sur lesquels repose une prière efficace, mais qui ne garantissent pas le moment où la réponse sera donnée. En fait, notre Père répondra de l'une des trois manières suivantes. Premièrement, vous pouvez ressentir la paix, le réconfort et l'assurance vous confirmant que votre décision est bonne. Ou deuxièmement, vous pouvez avoir des sentiments incertains, un engourdissement de pensée qui vous indique alors que c'est le mauvais choix. Ou troisièmement, et c'est le plus dur, vous pouvez ne ressentir aucune réponse. Que faire ? Lorsque l'on s'est soigneusement préparé, que l'on a prié avec ferveur, que l'on a attendu la réponse pendant un délai raisonnable, mais qu'on ne la ressent toujours pas. Peut-être pourriez-vous exprimer votre gratitude lorsque cela se produit, car c'est une preuve de la confiance que le Seigneur a en vous. Lorsque vous vivez d'une manière digne et que votre choix est conforme aux enseignements du Sauveur et que vous avez besoin d'agir, faites-le avec confiance. Si vous êtes sensible au murmure de l'Esprit, il se produira l'une des deux choses suivantes au moment opportun. Soit vous aurez un engourdissement de pensée, indiquant un mauvais choix, Soit vous ressentirez de la paix ou une chaleur dans votre poitrine, confirmant ainsi que vous aviez fait le bon choix. Si vous vivez de manière juste et que vous agissez avec confiance, Dieu vous ne laissera pas aller trop loin avant de vous donner un signal d'alarme si vous avez pris la mauvaise décision. Un aspect important de la prière est la reconnaissance. Quand on réfléchit aux dons incomparables de la prière et aux bénédictions infinies qui en découlent, une gratitude sincère remplit notre esprit et notre cœur d'action de grâce. Ne devons-nous pas alors exprimer de notre mieux continuellement et profondément à notre Père bien-aimé notre infinie reconnaissance du don divin de la prière et de ses réponses qui satisfont nos besoins et nous poussent à progresser. Je témoigne que notre Père répondra toujours à vos prières de la manière et au moment les meilleurs pour votre bien éternel. Au nom de Jésus-Christ, amen.
The Lord has need of wind and blue.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Jay Jensen et John Dixon des 70. Après leur discours, le chœur, l'assemblée chanteront « Seigneur, merci pour le prophète ». Jeffrey Holland et David Bednar du Collège des 12 apôtres nous adresseront ensuite la parole, après quoi le chœur chantera « Quand je lis l'Écriture sainte ». Frère Jensen.
This magnificent choir,
ce chœur magnifique, donne des sermons inspirants. En fait, c'est dans les cantiques que l'on trouve quelques-uns des plus grands sermons. Mon témoignage et ma conversion à l'Évangile rétabli ont été grandement influencés par les cantiques de Sion que j'ai chantés quand j'étais jeune. J'ai grandi dans la petite ville de Mapleton en Utah et j'assistais aux réunions dans ce que l'on appelle aujourd'hui la vieille église blanche. Ma mère, qui a 95 ans, habite toujours Mapleton. Quand je vais la voir, je passe devant la vieille église blanche et un flot de doux souvenirs envahit mon esprit. Il y a entre autres le pouvoir de conversion des cantiques que nous chantions à la prêtrise, à l'école du dimanche et à la réunion de Sainte-Seine. Mon expérience a été la même que celle du présent Hinckley qui, lorsqu'il était diacre, a assisté à une réunion de prêtrise du pieu avec son père. Ils ont chanté au grand prophète. Il a dit plus tard, « J'ai eu une impression qui ne m'a jamais quitté depuis, que Joseph Smith était vraiment un prophète de Dieu. Je crois que nombreux sont les saints qui ont cette même expérience encore et encore. Les cantiques jouent un rôle essentiel dans la spiritualité, la révélation et la conversion. Les cantiques jouent un rôle essentiel dans nos réunions de l'Église. Ils favorisent la présence de l'Esprit du Seigneur. Et souvent, ils le font plus rapidement que tout ce que nous pourrions faire d'autre. Président J. Reuben Clark, fils, a dit, nous nous approchons peut-être davantage du Seigneur par la musique que par n'importe quel autre moyen, excepté la prière. Deux missionnaires qui enseignaient un couple au domicile d'un couple âgé au Pérou ont été interrompus par l'arrivée du fils et de son épouse avec leurs trois enfants. Les missionnaires ont expliqué qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Le fils était méfiant vis-à-vis des missionnaires, ce qui a rendu les premiers instants difficiles. Le collègue missionnaire en second a fait une prière silencieuse. Père Céleste, qu'allons-nous faire ? Aussitôt, ils ont eu le sentiment qu'ils devaient chanter, et ils ont chanté « Je suis enfant de Dieu ». L'Esprit a touché le cœur des cinq personnes de la famille. Au lieu de deux convertis, les sept sont devenus membres. Ils ont été touchés initialement par un cantique. La musique dans les réunions de l'Église et dans les classes devrait amener un esprit de recueillement, de révélation et de témoignage. Pour la réunion de Sainte-Seine, l'Épiscopat a la responsabilité de choisir la musique ou de l'approuver. Il s'assure que la musique, les paroles et les instruments sont sacrés, dignes et favoriseront le recueillement et la révélation. La musique devient un spectacle quand elle attire l'attention sur elle-même. Il y a des années de cela, j'étais responsable de la musique pour une réunion où un morceau spécial est devenu un spectacle. C'était décevant. L'esprit de recueillement avait disparu. Les cantiques favorisent une atmosphère de recueillement. Les mots recueillement et révélation sont comme des jumeaux qui aiment être ensemble. Lorsque nous, les 70, sommes invités à des réunions avec la première présidence et les 12, on nous rappelle d'arriver en avance et d'écouter le prélude musical. Cela favorise la révélation et nous prépare pour la réunion. Président Packer a enseigné qu'un membre qui joue avec douceur un prélude musical tiré du livre de Cantiques tempère nos sentiments et nous amène à méditer sur les paroles qui enseignent les choses paisibles du royaume. Si nous écoutons, ils enseignent l'Évangile, car les Cantiques du rétablissement sont, en réalité, un cours sur la doctrine. Les cantiques du rétablissement portent l'esprit de la conversion. Ils sont le résultat de sacrifices. Des cantiques tels que « Ô grand prophète, venez, venez, anciens d'Israël, Seigneur, merci pour le prophète, Sauveur d'Israël, et bien d'autres soulignent les grandes vérités du rétablissement comme la divinité du Père et du Fils, le plan de la rédemption, la révélation, les Écritures modernes, le rassemblement d'Israël, la Sainte Prêtrise, les ordonnances et les alliances. Ces cantiques nourrissants créent une atmosphère qui favorise la présence de l'Esprit, lequel nous amène à la conversion. Les réunions de Sainte-Seine seraient bien incomplètes et vides sans les cantiques d'adoration. Les cantiques les plus sacrés sont ceux qui évoquent le sacrifice, le sang versé et l'expiation infinie de Jésus-Christ. Mes souvenirs les plus lointains de la puissance guérisseuse du Sauveur sont associés aux cantiques de Sainte-Seine. Cette phrase est réelle pour moi. Merveilleux l'amour que Jésus le Christ m'a donné. Avec quelle grâce, souvent, il m'a pardonné. Ma compréhension de la doctrine du sacrifice expiatoire est liée au cantique. Ce verset en est l'illustration. Qu'il soit honoré pour toujours le divin plan de vie qui réunit justice, amour en céleste harmonie. Chanter les cantiques et écouter de la bonne musique commence au foyer. La première présidence nous a rappelé ceci. Nous invitons les saints des derniers jours à écouter, à jouer et à chanter chez eux de la belle musique. Nous espérons que ce livre de cantiques prendra une place de choix parmi les Écritures et les autres livres religieux. Les cantiques peuvent susciter au sein de la famille un esprit de beauté et de paix, et inspirer amour et unité. Apprenez à vos enfants à aimer les cantiques. Chantez-les le jour du sabbat, pendant la soirée familiale, pendant l'étude des Écritures, au moment de la prière. Chantez-les en travaillant, en jouant et en voyageant ensemble. Chantez-les comme berceuses pour édifier la foi et le témoignage chez les petits. Les leçons importantes que j'ai apprises dans les cantiques et que je cherche à mettre en pratique sont 1. M'efforcer d'être plus ponctuel aux réunions, de m'asseoir calmement et d'écouter le prélude musical, de me recueillir et de chercher la révélation. 2. Quitter la réunion avec plus de révérence et laisser le postlude prolonger l'esprit de la réunion. 3. Chanter les cantiques. Je vois des personnes qui ont des livres de cantiques, mais qui ne chantent pas. 4. Choisir des cantiques qui conviennent aux réunions et aux discours. 5. Utiliser les cantiques pour introduire ou souligner les Écritures et les vérités de l'Évangile dans les leçons en classe. Et finalement, écoutez plus souvent les cantiques à la maison pour que l'Esprit règne. Je prie pour que nous éliminions de notre vie toute musique inconvenante et suivions ces conseils de la première présidence. Mes frères et sœurs, chantons des cantiques pour favoriser la présence de l'Esprit du Seigneur dans nos assemblées, dans notre famille et dans notre vie personnelle. Apprenons-les par cœur et méditons-les, récitons-les, chantons-les et puisons en eux de la nourriture spirituelle. Sachez que le chant des justes est une prière à notre Père céleste et qu'il sera exaucé par une bénédiction sur votre tête. Je témoigne de ces vérités au nom de Jésus-Christ. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Bonjour, mes frères et sœurs. Ce matin, je voudrais m'adresser à la jeunesse de l'Église, comme Sœur Dixon et moi le ferions à notre propre famille. Nous savons que vous êtes une génération extrêmement brillante qui bientôt prendra notre place à tête du foyer, d'entreprise, de la collectivité et de l'Église. Votre Père Céleste aime chacun d'entre vous et vous a envoyé sur terre dans un but. Il a révélé un plan du bonheur qui, si vous le suivez, vous ramènera finalement en sa présence après que vous aurez triomphé des difficultés de ce monde. Vous engagez maintenant à vivre selon le tracé de votre Père Céleste à fixer, vous apportera une grande force pour faire bon usage de votre libre arbitre moral. Les engagements sincères que vous prendrez vis-à-vis de vous-même et du Seigneur seront essentiels. Le livre des psaumes nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, et il agira. Vous êtes venu dans ce monde à une époque connue depuis le commencement, à un moment avant la seconde venue du Seigneur, à une époque où, d'un côté, l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli dans sa plénitude, et d'un autre côté, il y a un grand tumulte, beaucoup de confusion et de méchanceté. Cette terre de mise à l'épreuve sur laquelle vous êtes né est merveilleuse, car elle offre de grandes possibilités, mais elle présente aussi des périls en abondance, des périls pour l'âme de chacun. Il est maintenant temps de vous engager envers le Seigneur concernant ce que vous allez devenir pendant cette mise à l'épreuve de la condition mortelle. Avec vos parents, les prophètes vivants et les Écritures, le Saint-Esprit vous aidera à faire la distinction entre le bien et le mal, pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions. J'espère que vous étudierez en vous aidant de la prière le livret Jeunes Soyez Forts, que vous le lirez souvent et en aurez sur vous dans votre portefeuille. L'exemplaire, vous obtiendrez un grand bonheur dans cette vie et éternellement si vous décidez maintenant de vivre en suivant le modèle décrit dans ces pages. Je vais vous aider à comprendre comment ces engagements pris tôt peuvent vous être utiles en vous relatant l'expérience d'un dirigeant de l'Église. Quand il était jeune, il a décidé de toujours observer la parole de sagesse et de ne jamais toucher à l'alcool ou au tabac. Il ne se souvient pas de ce qui a pu le motiver à prendre cette décision importante à cette époque, mais une victoire cruciale avait été gagnée dans son cœur et à genoux. Il a pris l'engagement de toujours garder les commandements du Seigneur. Au fil des années, des invitations à faire usage de ces substances ont été lancées. Mais il a appris qu'il pouvait répondre non merci. Il n'avait pas à livrer de combat intérieur concernant la parole de sagesse, parce que des années auparavant, il avait pris un engagement personnel et qui s'était engagé sincèrement envers le Seigneur à obéir à cette loi. Si vous voulez recevoir les bénédictions du Seigneur attachées à la parole de sagesse, engagez-vous à ne jamais toucher à la drogue partout présente dans la société d'aujourd'hui. L'adversaire aura très peu de pouvoir de vous tenter avec des choses auxquelles vous n'avez jamais touché. En tant que membres de l'Église, nous nous sommes fait baptiser et nous avons fait alliance de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ et de garder les commandements de Dieu. Si nous commettons des fautes, l'Évangile nous permet de nous repentir sincèrement et de recevoir le pardon. Que vous soyez jeune ou vieux, vous pouvez vous engager dès aujourd'hui, quelle que soit votre situation actuelle, y compris vous repentir et abandonner vos péchés si vous avez commis des fautes. Le Seigneur a promis de grandes et éternelles bénédictions à ses enfants justes et repentants. Mais connaissant les grands dangers de cette vie, il nous a commandé de prendre garde et de prêter une attention diligente aux paroles de la vie éternelle. Parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous revenions vers lui, ce commandement de prendre garde à nous-mêmes nous invite à faire attention à tout ce qui nous entoure, aux relations que nous entretenons, à ce que nous regardons et lisons, aux médias et aux distractions, à la musique que nous écoutons, etc. Prendre des engagements de bonne heure est très important. Par exemple, pour recevoir les bénédictions promises aux gens qui payent la dîme et les offrandes, vous devez vous engager maintenant à payer la dîme sur tous vos revenus. Payer la dîme nous aide à devenir moins égoïste et plus semblable à notre Père Céleste qui veut partager tout ce qu'il a avec ses enfants justes. Prendre cette décision sera extrêmement important. Il est intéressant de remarquer que, comme la dîme, chaque commandement est conçu pour votre bonheur éternel et vous aide à devenir plus semblable à votre Père Céleste. Décidez maintenant d'être comme Néphi autrefois, qui était absolument déterminé à aller et faire ce que le Seigneur avait commandé. Voyons maintenant d'autres engagements qui nous apporteront des bénédictions. À l'école, ne serait-il pas merveilleux que, quoi que fassent les autres, à partir de maintenant, vous soyez connu pour votre intégrité absolue et votre langage châtié? Décidez maintenant que vous ne tricherez jamais, que votre langage sera propre, que tant que vous vivrez, aucun mot, aucune blague vulgaire ne franchiront vos lèvres. Ce sont des engagements que vous pouvez prendre dans le calme de votre chambre et à genoux. Vous obtiendrez le succès si vous vous adressez au Seigneur avec ferveur, humilité dans la prière. Les Écritures nous disent « Sois humble, et le Seigneur ton Dieu te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. » Il serait bon également que vous vous engagiez au sujet de la pudeur dans l'habillement et de votre conduite lors des sorties. Il est toujours plus facile de suivre les principes du Seigneur lorsque vous avez déjà décidé quelle sera votre conduite, lorsque vous aurez à prendre la décision de sortir en couple avec des amis ou des camarades. Peut-être certains ne comprendront-ils pas vos valeurs si vous suivez des principes justes et êtes fidèles à vos engagements, mais ils vous respecteront, vous admireront véritablement et souhaiteront vous ressembler. Voici d'autres principes sur lesquels réfléchir et vous engager. Une pureté morale et sexuelle absolue, l'observance du jour du sabbat, la préparation pour la mission et le temple, la détermination de toujours prendre dignement la Sainte Cène. Le président Hinckley aime les jeunes et il vous a toujours recommandé de suivre les principes que le Seigneur a fixés. Si vous suivez les recommandations et les conseils d'un prophète vivant, cela vous mènera sur le chemin du bonheur éternel. Si vous vous engagez à faire la volonté du Seigneur, il vous aidera et vous rendra plus fort. Votre foi, votre confiance et vos désirs de le suivre seront les clés les plus importantes de votre succès. Je sais que notre Père Céleste aime chacun d'entre vous, qu'il a véritablement envoyé son Fils unique pour vous aider et que vous pouvez obtenir un succès magnifique si vous vous engagez sincèrement à le suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
This is the 177th
annual... Vous assistez à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
The prophet Joseph,
Joseph Smith, le prophète, nous a donné une plus grande compréhension du pouvoir de la parole quand il a enseigné. C'est par des mots que tous les êtres agissent quand ils agissent par la foi. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Josué a parlé, et les grands luminaires que Dieu avait créés se sont arrêtés. Élie a commandé, et les cieux ont été scellés pendant 3 ans et 6 mois, et il n'a pas plu. Tout cela a été accompli par la foi, a dit le prophète Joseph. La foi, puis des œuvres par des mots. Et par des mots, ses œuvres les plus puissantes ont été et seront accomplies. Comme tous les dons et ce qui vient d'en haut, les mots sont sacrés et doivent être dits avec prudence et sous la contrainte de l'esprit. C'est avec cette conscience du pouvoir et de la sainteté des mots que je souhaite nous mettre en garde, si cela est nécessaire, concernant la manière dont nous nous parlons les uns aux autres et dont nous parlons de nous-mêmes. Il y a une ligne des apocryphes qui souligne la gravité de ce sujet mieux que je ne le pourrais. Elle dit: le coup du fouet laisse une marque dans la chair, mais le coup de la langue brise les os. Avec cette image cinglante à l'esprit, j'ai été particulièrement impressionné de lire dans le livre de Jacques qu'il y avait un moyen par lequel je pouvais devenir un homme parfait. Jacques a dit: nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Continuant l'image de la bride, il écrit: si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail. Puis Jacques explique: de même, la langue est un petit membre, mais un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, placé parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammé par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Eh bien, c'est assez direct. Il est évident que Jacques ne veut pas dire que notre langue est toujours mauvaise, ni que tout ce que nous disons est plein d'un venin mortel. Mais il veut clairement dire qu'au moins certaines de nos paroles peuvent être destructrices, venimeuses même, et cela fait froid dans le dos. La voix qui rend un témoignage profond, qui murmure des prières ferventes et qui chante les cantiques de Sion, peut aussi être celle qui reproche et critique, embarrasse et rabaisse, fait mal et détruit sa propre spiritualité ainsi que celle des autres. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques se lamente. Il dit: il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Est-ce une chose à laquelle nous pouvons tous travailler? Est-ce un domaine dans lequel nous pouvons chacun essayer d'être un homme ou une femme un peu plus parfait? Marie, on vous a confié le don le plus sacré que Dieu puisse vous donner, une femme, une fille de Dieu, la mère de vos enfants, qui s'est volontairement donnée à vous pour une union d'amour et de joie. Pensez aux choses gentilles que vous disiez quand vous faisiez la cour. Pensez aux bénédictions que vous lui avez données en posant avec amour vos mains sur sa tête. Pensez au Dieu et à la déesse que vous êtes intrinsèquement. Puis, réfléchissez aux autres moments caractérisés par des mots froids, caustiques, sans retenue. Étant donné les dommages qui peuvent être causés par notre langue, il n'est pas étonnant que le Sauveur ait dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Un mari qui n'imaginerait même pas de frapper physiquement sa femme peut la briser, peut-être pas ses os, mais certainement son cœur et son esprit, par la brutalité de l'inconscience ou de la méchanceté de son langage. Les sévices physiques sont uniformément et clairement condamnés par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Si tant est qu'il soit possible de condamner encore davantage, nous nous élevons plus vigoureusement contre toute forme de sévices sexuels. Avec la même vigueur, nous nous élevons contre les sévices verbaux et émotionnels de quiconque contre quiconque, mais particulièrement du mari contre sa femme. Mes frères, ces choses ne doivent pas être. Dans le même esprit, nous nous adressons aussi aux sœurs, car le péché des sévices verbaux n'est pas propre à un sexe. Femmes, y a-t-il une langue débridée dans votre bouche? Que faites-vous du pouvoir bénéfique ou maléfique de vos paroles? Comment se fait-il qu'une voix aussi jolie, par nature divine, aussi angélique, si proche du voile, si instinctivement douce et intrinsèquement gentille, puisse subitement être si stridente, si acerbe, si mordante et indomptée? Les paroles d'une femme peuvent être plus acérées que le meilleur des poignards. Et elles peuvent pousser les gens qu'elle aime à s'abriter derrière une barrière plus distante que quiconque au début de cet échange aurait pu l'imaginer. Sœurs, il n'y a pas de place dans ce magnifique esprit qui est le vôtre pour quelque expression acerbe ou caustique, notamment le commérage, la médisance ou les réflexions désagréables. Qu'il ne soit jamais dit de notre foyer, de notre paroisse ou de notre voisinage qu'il est une langue de feu, un monde d'iniquité brûlant parmi nos membres. J'élargis cette recommandation pour en faire un sujet pour toute la famille. Nous devons faire très attention quand nous parlons à un enfant. Ce que nous disons ou ne disons pas, la manière dont nous le disons et le moment où nous le faisons sont très très importants pour former la perception qu'un enfant a de lui-même. Mais c'est encore plus important pour former la foi de cet enfant en nous et sa foi en Dieu. Adressez des paroles constructives aux enfants, toujours. Ne leur dites jamais, même en plaisantant, qu'ils sont gros, bêtes, paresseux ou pas très beaux. Vous ne le feriez pas par méchanceté, mais ils s'en souviendraient et mettraient des années à essayer de l'oublier et à pardonner. Et essayez de ne pas comparer vos enfants, même si vous pensez que vous êtes doué pour le faire. Vous pouvez dire de manière positive que Susan est jolie et Sandra intelligente. Mais tout ce que Susan retiendra est qu'elle n'est pas intelligente et que Sandra n'est pas jolie. Complimenter chaque enfant individuellement pour ce qu'il est et aidez-le à échapper à l'obsession de notre culture pour la comparaison, la compétition et le sentiment de n'être jamais à la hauteur. Dans tout cela, je pense qu'il va sans dire que les paroles négatives viennent souvent de pensées négatives, notamment de pensées négatives à notre sujet. Nous voyons nos propres fautes, nous nous critiquons en parole, ou au moins en pensée, et rapidement, c'est comme cela que nous voyons tout et tout le monde. Pas de soleil, pas de rose, pas de promesses d'espoir ou de bonheur. Rapidement, nous sommes malheureux, et notre entourage aussi. J'aime ce que Orson F. Whitney a dit un jour. L'esprit de l'Évangile est optimiste. Il fait confiance à Dieu et regarde le bon côté des choses. L'opposé, ou l'esprit pessimiste, entraîne les hommes vers le bas et loin de Dieu, regarde le côté sombre, murmure, se plaint et est lent à obéir. Honorer la déclaration du Sauveur disant « Rassurez-vous ». En fait, il me semble que nous sommes peut-être davantage coupables d'enfreindre ce commandement que presque n'importe quel autre. Parlez avec espoir. Ayez des paroles encourageantes, notamment à votre sujet. Essayez de ne pas vous plaindre, ni de vous lamenter sans cesse. Comme quelqu'un a dit un jour, même à l'âge d'or de la civilisation, quelqu'un a sans doute grommelé que tout semblait trop jaune. J'ai souvent pensé qu'il avait peut-être été plus supportable pour Néphi d'être attaché et frappé que d'avoir à entendre constamment les murmures de Laman et Lémuel. Il a sûrement dû dire « Frappez-moi encore, je peux toujours vous entendre ».
Life has its problems.
Oui, la vie a ses problèmes. Et oui, il faut affronter des choses négatives. Mais s'il vous plaît, acceptez une de mes maximes. Aucun malheur n'est dur au point qu'on ne puisse l'aggraver en se lamentant dessus. Paul l'a dit franchement, mais avec beaucoup d'espoir. Il nous a dit à tous, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans son dernier témoignage si émouvant, Néphi nous appelle à suivre le Fils d'un cœur pleinement résolu, promettant que, lorsque nous aurons reçu le baptême de feu et du Saint-Esprit, nous pourrons parler dans une langue nouvelle, oui, dans la langue des anges. Or, comment pourriez-vous parler dans la langue des anges si ce n'est par le Saint-Esprit ? A-t-il ajouté, les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. En vérité, le Christ était et est la parole, d'après Jean le Bien-Aimé, pleine de grâce et de vérité, pleine de miséricorde et de compassion. Donc, frères et sœurs, dans notre quête éternelle pour ressembler davantage à notre Sauveur, essayons d'être des hommes et des femmes parfaits dans au moins ce domaine, en n'offensant pas par des paroles ou exprimées de manière plus positive, en parlant une nouvelle langue, la langue des anges. Nos paroles, comme nos actions, doivent être remplies de foi, d'espérance et de charité. Les trois grands impératifs chrétiens dont le monde actuel a si désespérément besoin. De telles paroles, prononcées sous l'influence de l'Esprit, peuvent sécher les larmes, guérir les cœurs, élever les vies, rendre l'espoir, faire prévaloir la confiance. Je prie pour que mes paroles, même sur ce sujet difficile, puissent vous encourager, non vous décourager. Je prie pour que vous puissiez entendre à ma voix que je vous aime, car je vous aime. Plus important encore, veuillez savoir que votre Père Céleste vous aime et que son Fils unique aussi. Quand ils vous parleront, et ils le feront, ce ne sera pas dans le vent, ni dans le tremblement de la terre, ni dans le feu, mais ce sera un murmure doux et léger, une voix tendre et gentille. Ce sera dans la langue des anges. Puissions-nous tous nous réjouir à l'idée que lorsque nous disons des choses édifiantes, encourageantes à l'un de ses plus petits, nos frères, sœurs et enfants, c'est à Dieu que nous les disons. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Quand j'étais enfant, j'habitais en Californie près de grands vergers abricotiers, de cerisiers, de pêchers, de poiriers et d'autres arbres à fruits délicieux. Nous habitions aussi à proximité de champs de concombres, de tomates et d'une grande variété de légumes. Jeune garçon, j'attendais toujours la saison des conserves. Je n'aimais pas récurer les bocaux ou travailler dans la cuisine surchauffée. Mais j'aimais travailler avec ma mère et mon père. Et j'adorais manger le produit de mon travail. Je suis sûr que je mangeais plus de fruits que je n'en mettais dans nos bocaux. Mes souvenirs du temps passé dans la cuisine avec ma mère et mon père sont ravivés chaque fois que je vois un bocal de cerises ou de pêche mis en conserve à la maison. Les leçons fondamentales que j'ai apprises sur l'autonomie et la prévoyance en ramassant les fruits et en les mettant en conserve ont été une bénédiction pour moi tout au long de ma vie. Des expériences simples, intéressantes et ordinaires donnent souvent les meilleures occasions d'apprendre. En tant qu'adulte, j'ai réfléchi aux choses que j'ai observées dans notre cuisine pendant la saison des conserves. Ce matin, je vais aborder certaines des leçons spirituelles que nous pouvons tirer de la manière dont un concombre devient un cornichon. J'invite le Saint-Esprit à se joindre à nous, tandis que nous regarderons ce que signifient ces leçons pour vous comme pour moi, tandis que nous allons au Christ et que nous renaissons spirituellement. Un cornichon, c'est un concombre qui a été transformé selon une recette particulière et une série d'étapes. Les premières étapes du processus de transformation d'un concombre en cornichon sont la préparation et le nettoyage. Je me rappelle les nombreuses heures passées sur le perron derrière notre maison à enlever les tiges et gratter à terre des cocombes que nous avions ramassés. Ma mère était très pointilleuse sur la préparation et le nettoyage des cocombes. Elle avait des principes de propreté très élevés et inspectait toujours mon travail afin de s'assurer que cette tâche importante avait été accomplie correctement. Les étapes suivantes de ce processus de transformation étaient l'immersion et l'imbibition des cocombres dans la saumure pendant un long moment. Pour préparer la saumure, ma mère se servait toujours d'une recette qu'elle avait apprise de sa mère. Une recette comprenant des ingrédients spéciaux et un procédé très strict. Les cocombres ne peuvent devenir des cornichons que s'ils sont totalement et complètement immergés dans la saumure pendant la période prescrite. Ce procédé modifie progressivement la composition des concombres et donne cette apparence transparente et ce goût caractéristique du cornichon. Les asperger de semure ou les tremper dedans ne produit pas la transformation nécessaire. Une immersion complète, continue et régulière est nécessaire pour obtenir le changement voulu. La dernière étape du processus est le scellement des concombres dans les bocaux qui ont été stérilisés et purifiés. Ces cornichons sont mis dans des bocaux, recouverts de saumure bouillante et traités dans un stérilisateur avec de l'eau bouillante. Toutes les impuretés doivent disparaître à la fois des cornichons et des bocaux afin que le produit fini soit protégé et conservé. Si le procédé est suivi correctement, on peut conserver et savourer les cornichons pendant longtemps. En résumé, un concombre devient un cornichon par la préparation, le nettoyage, l'immersion et l'imbibition de saumure, puis le scellement dans un bocal stérilisé. Ce processus demande du temps, il ne faut pas le hâter, et aucune des étapes essentielles ne peut être ignorée ou évitée. Les serviteurs, autorité du Seigneur, enseignent sans relâche qu'un des buts essentiels de notre existence terrestre est d'être changé et transformé spirituellement grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Alma a déclaré : ne t'étonne pas de ce que toute l'humanité, oui, tous les hommes et les femmes, toutes les nations, tribus, langues et peuples doivent naître de nouveau, oui, naître de Dieu, changer de leur état charnel et déchu à un état de justice, étant rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles. Et ainsi, ils deviennent de nouvelles créatures. Et s'ils ne font pas cela, ils ne peuvent en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Il nous est demandé d'aller au Christ et d'être rendu parfait en lui et de nous refuser toute impiété, de devenir une nouvelle créature en Christ, de nous dépouiller de l'homme naturel et de connaître un grand changement en nous ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Notez bien que la conversion dont il est question dans ces versets est grande et non mineure. C'est une renaissance spirituelle et un changement fondamental de ce que nous ressentons et désirons, de ce que nous pensons et faisons et de ce que nous sommes. En fait, l'essence de l'évangile de Jésus-Christ suppose un changement fondamental et permanent de notre nature profonde, qui est rendu possible par le fait que nous nous appuyons sur les mérites et la miséricorde et la grâce du Saint-Messie. Si nous choisissons de suivre le Maître, nous choisissons aussi de changer, de renaître spirituellement. Tout comme le concombre doit être préparé et nettoyé avant de pouvoir être transformé en cornichon, vous et moi devons être préparés avec les bonnes paroles de la foi et de la bonne doctrine, et tout d'abord nettoyés grâce aux ordonnances et alliances administrées par l'autorité de la prêtrise d'Aaron. Et la moindre prêtrise continua, laquelle prêtrise détient les clés du ministère d'ange et de l'évangile préparatoire, lequel l'Évangile est l'Évangile de repentir et de baptême, la rémission des péchés. Et le Seigneur a établi des principes élevés de pureté. C'est pourquoi, enseigne-le à tes enfants, que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Car rien d'impur ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence. La préparation et le nettoyage correct sont les premières étapes du processus de la nouvelle naissance. Tout comme un concombre devient un cornichon par l'immersion et l'imbibition dans la semure, vous et moi naissons de nouveau en étant absorbés dans et par l'évangile de Jésus-Christ. Si vous honorez et observez les alliances que vous avez contractées, si vous vous faites un festin des paroles du Christ, si vous priez le Père avec toute l'énergie de votre cœur, et si vous servez Dieu de tout votre cœur et de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces, alors, à cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles. Car voici, aujourd'hui, il vous a engendré spirituellement. Car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. C'est pourquoi vous êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles. En général, la renaissance spirituelle décrite dans ce verset ne se produit pas rapidement ou d'un seul coup. C'est un processus continu, non un seul événement. Ligne après ligne, précepte sur précepte, progressivement et presque imperceptiblement, nos motivations, nos pensées, nos paroles et nos actions s'alignent sur la volonté de Dieu. Cette phase du processus de transformation demande du temps, de la persévérance et de la patience. Un concombre ne devient un cornichon que par une immersion constante, soutenue et complète dans la saumure. D'une façon significative, le sel est l'élément clé de cette recette. Le sel est souvent mentionné dans les Écritures comme symbole à la fois de l'Alliance et du peuple de l'Alliance. Et tout comme le sel est essentiel à la transformation du concombre en cornichon, les alliances sont essentielles à notre renaissance spirituelle. Nous entamons le processus de renaissance en exerçant notre foi en Christ, en nous repentant de nos péchés et en étant baptisés par immersion pour la rémission des péchés par quelqu'un qui détient l'autorité de la prêtrise. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Une fois que nous sommes sortis de l'eau du baptême, notre âme a besoin d'être continuellement immergée dans la vérité et la lumière de l'évangile du Sauveur et d'en être imbibée. Être trempé sporadiquement et légèrement dans la doctrine du Christ, ainsi que participer partiellement à son Église rétablie, ne peut produire la transformation spirituelle qui nous permettra de marcher en nouveauté de vie. Mais par contre, la fidélité au commandement, la constance vis-à-vis des engagements et l'offrande de notre âme entière à Dieu sont requises pour recevoir les bénédictions de l'éternité. Je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui, et offrez-lui votre âme tout entière en offrande, et continuez dans le jeûne et la prière, et persévérez jusqu'à la fin. Et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés. L'immersion totale et l'imbibition dans l'évangile du Sauveur sont des principes essentiels du processus de nouvelle naissance. Les concombres traités sont mis en bocaux stérilisés et dans l'eau chaude afin de les débarrasser des impuretés et de sceller le bocal contre les contaminations extérieures. La procédure de bain d'eau bouillante protège les cornichons et les préserve pour une longue période. D'une manière similaire, nous nous purifions et nous sanctifions progressivement lorsque vous et moi sommes lavés dans le sang de l'agneau. Que nous naissons de nouveau. Recevons les ordonnances et honorons les alliances qui sont administrées par l'autorité de la prêtrise de Melchisédek. Néanmoins, ils jeûnaient et priaient souvent et devenaient de plus en plus forts dans leur humilité et de plus en plus fermes dans la foi au Christ, au point que cela leur remplissait l'âme de joie et de consolation, oui, au point que cela leur purifiait et leur sanctifiait le cœur, sanctification qui venait de ce qu'ils avaient livré leur cœur à Dieu. Le mot « scellé » dans mon message ne fait pas référence exclusivement à l'ordonnance du mariage éternel qui se pratique dans la maison du Seigneur. Mais je me sers de ce mot dans le sens qui est donné à la section 76 des Doctrines Alliance. Et voici le témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ concernant ceux qui s'élèveront à la résurrection des justes. Ce sont ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus, ont cru en son nom, ont été baptisés à la manière de son ensevelissement, étant ensevelis dans l'eau en son nom, selon le commandement qu'il a donné, afin qu'en gardant les commandements, ils soient lavés et purifiés de tous leurs péchés et reçoivent l'Esprit Saint par l'imposition des mains de celui qui est ordonné et scellé à ce pouvoir, et qui vainquent par la foi et sont scellés par le Saint-Esprit de promesse que le Père répand sur tous ceux qui sont justes et fidèles. Le Saint-Esprit de promesse est le pouvoir du Saint-Esprit qui confirme, lorsqu'elle est scellée par le Saint-Esprit de promesse, l'ordonnance, le vœu ou l'alliance sont liés sur terre comme au ciel. La réception de ce sceau d'approbation est le résultat de la foi, de l'intégrité et de la fermeté à honorer les alliances de l'Évangile dans la suite des temps. Toutefois, ce scellement peut être remis en cause par l'infidélité et la transgression. La purification et le scellement par le Saint-Esprit de promesse constituent les étapes suprêmes du processus de la nouvelle naissance. Mes chers frères et sœurs, je prie pour que cette parabole du cornichon vous aide à mieux évaluer vos vies et à mieux comprendre l'importance éternelle de la renaissance spirituelle. Comme Alma, je parle avec l'énergie de mon âme. Je vous dis que c'est là l'ordre selon lequel je suis appelé. Oui, pour prêcher à mes frères bien-aimés. Oui, et à tous ceux qui demeurent dans le pays. Oui, pour prêcher à tous, aussi bien jeunes que vieux, aussi bien esclaves que libres. Oui, je vous le dis, à ceux qui sont âgés, et à ceux qui sont mûrs, et à la génération montante. Oui, pour leur crier, qu'ils doivent se repentir et naître de nouveau. Je témoigne de la réalité et de la divinité du Sauveur vivant qui nous invite à venir à lui et à être transformés. Je témoigne que son Église et l'autorité de la prêtrise ont été rétablies par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète. Par la foi au Christ, nous pouvons être spirituellement préparés et lavés des péchés, immergé et imbibé de son évangile et purifié et scellé par le Saint-Esprit de promesse, c'est-à-dire naître de nouveau. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous
remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le président Hinckley m'a demandé de prendre la parole à présent. Après mon discours, le chœur terminera la session en chantant « Come thou fount of every blessing ». Ensuite, Paul Kolliker, des 70, fera la prière de clôture et la conférence sera interrompue jusqu'à 14h cet après-midi. Je feuilletais récemment quelques albums de photos, de famille, de beaux souvenirs m'ont envahi l'esprit, tandis que je revoyais image après image de proches prises lors de sorties en famille, d'anniversaires, de réunions de famille, de commémorations. Depuis que ces photos ont été prises, certains de ces êtres chers sont décédés. J'ai pensé aux paroles du Seigneur. Vous vivrez ensemble dans l'amour, de sorte que vous pleurerez la perte de ceux qui meurent. Chacun de ceux qui ont quitté notre cercle de famille me manque. Bien que difficile et douloureuse, la mort est une partie essentielle de notre expérience terrestre. Nous avons commencé notre séjour ici en quittant notre existence prémortelle et en venant sur cette terre. William Wordsworth, le poète, décrit ce voyage dans son poème inspiré « Ode à l'immortalité ». Il a écrit « Notre naissance n'est que sommeil et oubli. L'âme qui se lève avec nous, étoile de notre vie, a pris ailleurs son départ et vient de bien loin. Ce n'est pas dans un oubli complet, ni dans une nudité totale, mais entraînant des nuées de gloire que nous venons de Dieu, qui est notre foyer. Le ciel est autour de nous dans notre tendre enfance. La vie continue. La jeunesse suit l'enfance et la maturité approche de manière imperceptible en nous interrogeant sur le but et les problèmes de l'existence. Nous devons tous affronter tôt ou tard la question de la durée de la vie et d'une vie personnelle et éternelle. C'est quand des proches s'en vont ou que nous devons les quitter, que ces questions s'imposent à nous avec le plus d'insistance. Dans ces moments-là, nous réfléchissons à l'espoir universel, si bien formulé autrefois par Job il y a des siècles, qui rêvait « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre ». Aujourd'hui, comme toujours, la voix du sceptique conteste la parole de Dieu, et chacun doit choisir qui il va écouter. Clarence Darrow, l'homme de loi et agnostique célèbre, a dit « Aucune vie n'a de bien grande valeur, et chaque mort n'est pas une bien grande perte ». Schopenhauer, le philosophe et pessimiste allemand, a écrit « Désirer l'immortalité, c'est désirer la perpétuation éternelle d'une grande erreur ». Fin de citation. Et leurs grandes paroles, et à leurs paroles viennent s'ajouter celles des nouvelles générations d'hommes insensés qui crucifient le Christ à nouveau, car ils modifient ses miracles, doutent de sa divinité et rejettent sa résurrection. Robert Blatchford, dans son livre « God and my neighbor », « Dieu et mon prochain », attaque avec vigueur les croyances chrétiennes reconnues telles que Dieu, le Christ, la prière et l'immortalité. Il affirme hardiment, « Je prétends avoir approuvé si complètement et de manière si décisive tout ce que j'ai entrepris de prouver qu'aucun chrétien, aussi grand et capable qu'il soit, ne peut répondre à mes arguments ni ébranler ma position. Il s'entoure d'un mur de scepticisme. Et puis voilà qu'une chose étonnante se produit. Son mur tombe soudain en poussière. Il se retrouve nu et sans défense. Il retrouve, lentement et à tâtons, le chemin de la foi qu'il a méprisé et ridiculisé. Qu'est-ce qui a causé ce profond changement d'attitude? Le décès de sa femme. Le cœur brisé, il entre dans la chambre où se trouve sa dépouille mortelle. Il contemple de nouveau le visage qu'il a tant aimé. En sortant, il dit à un ami, « C'est elle, mais ce n'est pas elle. Tout est changé. Quelque chose qui était là avant est enlevé.
Elle n'est pas la même. Qu'est-ce qui peut être parti, si ce n'est l'âme? Plus tard, il écrira, « La mort n'est pas ce que certains imaginent. C'est seulement comme aller dans une autre chambre. Dans cette autre chambre, nous trouverons les femmes, les hommes et les enfants chéris que nous avons aimés et perdus. » Face au doute du monde aujourd'hui sur la divinité du Christ, nous cherchons un point de référence, une source inattaquable, voire un témoignage de témoins oculaires. Étienne, à l'époque biblique, condamné à la mort cruelle du martyr, a levé les yeux vers le ciel et s'est écrié, « Voici, je vois les cieux ouverts. » Et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu, qui peut s'empêcher d'être convaincu par un témoignage émouvant de Paul aux Corinthiens? Il a déclaré que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et, a dit Paul finalement, il m'est aussi apparu à moi. Dans notre dispensation, ce même témoignage a été rendu hardiment par Joseph Smith, le prophète, quand Sidney Rigdon et lui ont témoigné. Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui, qu'il vit. C'est cette connaissance qui nous soutient. C'est cette vérité qui soulage. C'est cette assurance qui guide, hors des ombres et vers la lumière, ceux qui sont écrasés de douleur. La veille de Noël 1997, j'ai rencontré une famille remarquable. Chaque membre de la famille avait le témoignage inébranlable de la vérité et de la réalité de la résurrection. La famille se composait de la mère, du père et de 4 enfants. Chacun des enfants, 3 fils et une fille, était né avec une forme rare de dystrophie musculaire et chacun était handicapé. On avait opéré Marc, qui avait alors 16 ans, à la colonne vertébrale, pour lui permettre de se déplacer plus librement. Les 2 autres garçons, Christopher, 13 ans, et Jason, 10 ans, devait partir pour la Californie quelques jours plus tard pour subir le même genre d'opération. La seule fille, Shanna, avait alors 5 ans, une belle enfant. Tous les enfants étaient intelligents et pleins de foi. Il était évident que leurs parents, Bill et Sherry, étaient fiers de chacun. Nous avons bavardé un moment et l'esprit spécial de cette famille a rempli mon bureau et mon cœur. Le père et moi, nous avons donné des bénédictions aux 2 garçons qui allaient devoir être opérés. Après quoi, les parents ont demandé si la petite Shanna pourrait chanter pour moi. Son père a mentionné que sa capacité pulmonaire était réduite et que cela risquait d'être difficile pour elle, mais qu'elle voulait essayer. Accompagnée d'une cassette enregistrée et d'une voix belle et claire, sans jamais manquer une note, elle a chanté un avenir meilleur. Un beau jour dont je rêve, dans un monde que j'aimerais voir, il y aura un bel endroit où le soleil apparaît et il brille dans le ciel pour moi, en ce beau matin d'hiver. Si mon souhait pouvait se réaliser, le beau jour dont je rêve serait là, tout de suite. Tandis qu'elle terminait, l'émotion montait en nous. La spiritualité de cette visite a donné le ton de mon Noël cette année-là. Je suis resté en contact avec la famille, et quand Marc, l'aîné, a eu 19 ans, des dispositions ont été prises pour lui faire faire une mission spéciale au siège de l'Église. Par la suite, les 2 autres frères ont également eu la possibilité de faire une telle mission. Il y a presque un an, Christopher, qui avait alors 22 ans, a succombé à la maladie dont chacun des enfants était affligé. Et puis, en septembre dernier, j'ai appris que la petite Shana, qui avait alors 14 ans, était décédée. Lors des obsèques, Shana est honorée par de beaux hommages. En s'appuyant sur le pupitre, chacun de ses frères survivants, Mark et Jason, a raconté des expériences familiales poignantes. La mère de Shana a chanté dans un magnifique duo. Le père et le grand-père de Shana ont prononcé des discours émouvants. Bien qu'ayant le cœur brisé, chacun a rendu un témoignage puissant et venant du fond du cœur de la réalité de la résurrection et du fait que Shana vit toujours, de même que son frère Christopher, chacun attendant des retrouvailles magnifiques avec sa famille bien-aimée. Quand cela était mon tour de parler, j'ai raconté cette visite que la famille m'avait faite à mon bureau presque 9 ans auparavant. J'ai parlé de la belle chanson que Shana avait chantée à cette occasion. J'ai conclu par la pensée. Parce que notre Sauveur est mort au calvaire, la mort n'a aucune prise sur aucun de nous. Shana vit, elle est bien vivante. Et pour elle, le beau jour qu'elle a chanté avant une veille de Noël spéciale en 1997, le jour dont elle rêvait est arrivé. Mes frères et sœurs, nous rions, nous pleurons, nous travaillons, nous jouons, nous aimons, nous vivons, et puis nous mourons. La mort est notre héritage universel. Tous doivent franchir ses portes. La mort appelle les vieux, les fatigués, les épuisés. Elle visite les jeunes, à qui tous les espoirs sont permis et qui sont dans la fleur de l'âge. Les petits-enfants ne lui échappent pas non plus. Pour employer les termes de l'apôtre Paul, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et morts, nous resterions sans cet homme et sa mission, Jésus de Nazareth. Né dans une étable, couché dans une mangeoire, sa naissance a réalisé les déclarations inspirées de beaucoup de prophètes. Il a été instruit d'en haut. Il a fourni la vie, la lumière et le chemin. Des foules l'ont suivi. Les enfants l'ont adoré. Les hautains l'ont rejeté. Il a parlé en parabole. Il a enseigné par l'exemple. Il a vécu une vie parfaite. Bien que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, soit venu, certains lui ont réservé l'accueil que l'on fait à un ennemi, à un traître. Il s'en est suivi un simulacre que certains ont appelé un procès. Les cris « Crucifie, crucifie-le !» ont rempli l'air. Puis a commencé la montée à la colline du calvaire. On s'est moqué de lui, on l'a insulté, raillé et cloué à une croix parmi des cris de « Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Sa réponse, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Son corps a été déposé par des mains aimantes dans un sépulcre de pierre. Le premier jour de la semaine, au point du jour, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et d'autres, se sont rendus au sépulcre. À leur grand étonnement, le corps de Seigneur avait disparu. Luc écrit que deux hommes, en vêtements éclatants, se tenaient tout près et leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » La semaine prochaine, le monde chrétien célébrera l'événement le plus important de l'histoire connue. Déclaration simple, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » A été la première confirmation la résurrection littérale de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le tombeau vide, en ce premier matin de Pâques, a apporté une assurance réconfortante, une réponse affirmative au vœu de Job. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, nous voudrions, pour tous ceux qui ont perdu des proches, transformer le souhait de Job en une affirmation. Si un homme meurt, il revivra, effectivement. Nous le savons, parce que nous avons la lumière de la vérité révélée. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, a déclaré le Seigneur. Au milieu des larmes et des épreuves, au milieu des craintes et des chagrins, au milieu de la tristesse et de la solitude, à la perte de proches, il y a l'assurance que la vie est éternelle. Notre Seigneur et Sauveur est le témoin vivant qu'il en est ainsi. De tout mon cœur, de toute l'ardeur de mon âme, j'élève la voix pour attester en témoin spécial et déclarer que Dieu vit. Jésus est son Fils, le Fils unique du Père dans la chair. Il est notre Rédempteur. Il est notre médiateur auprès du Père. Il est mort sur la croix pour expier nos péchés. Il est devenu les prémices de la résurrection. Parce qu'il est mort, tous revivront. Ah, quelle est douce la joie que cette phrase donne. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Puisse le monde entier la connaître et vivre en fonction de cette connaissance. C'est là mon humble prière. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Amen.
Call for songs, O Lord. Holy Father in heaven,
Saint Père céleste,
we humbly express our love unto thee.
Nous t'exprimons notre amour avec humilité. Nous sommes reconnaissants de cet moment de prière. Nous remercions de ceux qui guident ton Église. Nous te prions pour eux et te exprimons ton amour pour eux au nom de Jésus-Christ. Amen.
This is the 177th annual General Conference.
Vous venez d'assister à la première session de la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ les 5 derniers jours.